Bon, alors donc, voilà, bon, moi je vous remercie aussi de m'accueillir parce que vraiment c'est un honneur pour moi d'être accueilli par la Boranza Gambara, on va dire. Bon, la Confédération Paysanne Basque a une place quand même tout à fait particulière dans l'ensemble de la Confédération Nationale, on va dire, par la force, la détermination de ses militants et de ses militantes. Donc pour moi, c'est quand même qui vient d'une conf toute petite, Seine-Maritime, qui a été à une époque glorieuse à 40%, mais qui aujourd'hui compte qu'une soixantaine d'adhérents sur 6000 agriculteurs. Donc bon, c'est toujours très intéressant de confronter avec les expériences des militants qui sont dans des structures très actives et qui font des réalisations. Bon, moi donc, je suis paysan en Seine-Maritime, je suis producteur de fromage de chèvre fermier sur une petite surface avec un petit peu de fruits. Je suis sur 10 hectares et demi. Bon, j'arrive quand même à salarier de 2 personnes à plein temps équivalent sans prime pack. C'est quand même pour une création. Je me suis installé en 88, c'était une création. Bon, je pense que je me suis quand même pas trop mal débrouillé. Je pense que j'ai quand même une crédibilité de paysan, même si je suis pas du tout du milieu agricole. Bon, je suis aussi par ailleurs, j'ai une formation d'ingénieur agronome. Hein, donc, je maîtrise assez bien, on va dire, les questions techniques. Et donc, je me suis intéressé aux agrocarburants parce que la problématique énergétique me semble être quelque chose qui va être... ça a pris le pas, je pense que la problématique climatique est plus importante. Mais c'est toujours un sujet qui m'a intéressé. Et les agrocarburants, bon, moi j'en avais un petit peu entendu parler pendant ma scolarité, donc ça remonte déjà à une trentaine d'années. Et donc, la conclusion, c'était de dire que c'était vraiment pas formidable. Au niveau du bilan énergétique notamment, et donc c'était pas tellement intéressant. Et donc on est parti là-dedans, hein, de façon en France particulièrement forte. Et donc ça m'a interpellé, donc j'ai voulu savoir pourquoi est-ce qu'on était parti là-dedans, qu'est-ce qui avait fait que d'un truc pas tellement intéressant, c'était devenu manifestement quelque chose d'intéressant puisqu'on était parti à fond là-dedans. Donc je me suis intéressé à ça et j'ai travaillé ce dossier-là à partir de 2005. Bon, je vais vous passer un peu des détails. Et donc là, je suis venu là pas par hasard, c'est parce que Monsieur Belin, que vous voyez sur la photo, c'est quand même aujourd'hui un acteur tout à fait incontournable des agrocarburants, puisque avant d'être président de la FNSEA, il était président de Sophie Protéol depuis 2000, et donc il a fortement développé la production de diester, qui est incorporé au gasoil, par la société Sophie Protéol et qui a conduit à un développement tout à fait spectaculaire de cette société-là, qui aujourd'hui apparaît comme une filière, a priori, qui devrait servir de modèle aux autres filières agricoles, tellement ça a bien réussi. Bon, je vais vous faire voir un petit peu quel est le dessous des cartes, comment est-ce que ce succès a été obtenu, à quel prix pour le contribuable, pour les consommateurs. Et donc, vous allez voir qu'en fait, c'est pas du tout un modèle et que, justement, ce modèle, il commence à connaître quelques problèmes. Bon, alors, Sophie Protéol, qu'est-ce que c'est? Donc, Sophie Protéol, c'est la filière des oléagineux et des protéagineux en France. Bon, surtout oléagineux, parce que les protéagineux, on n'en fait quand même plus des masses. Donc, la filière, elle est regroupée sur une plateforme qui s'appelle Proléa, le logo figure pratiquement sur toute la communication de la filière. Dans cette structure Proléa, vous avez Sophie Protéol, qui est l'instrument financier, l'outil industriel, l'instrument financier, c'est Sophie Protéol. Vous avez la FOP, donc la Fédération des producteurs d'oléagineux et de protéagineux, donc affiliée à la FNSEA. Vous avez les deux interprofessions, donc ONIDOL et UNIP, donc les interprofessions, c'est ce qui récupère les cotisations volontaires obligatoires. Donc ça tombe pas directement dans la caisse de Sophie Protéol, mais dans la caisse commune. Et vous avez aussi le CETIUM, qui est le centre technique des oléagineux. Alors le groupe Sophie Protéol là-dedans, c'est vraiment le cœur du système, puisque c'est l'instrument financier et c'est lui qui détient tous les outils industriels. Alors là, je vous ai mis l'activité industrielle de Sophie Protéol en 2011. Donc, trituration de 4,7 millions de tonnes de graines oléagineuses. En France, on produit 7,5 millions de tonnes de graines oléagineuses. Donc, c'est vraiment un acteur tout à fait majeur, puisqu'il transforme plus de la moitié de ce qu'on produit en France. Donc, on triture 4,7 tonnes de graines oléagineuses, donc essentiellement colza, et un petit peu de tournesol, hein, grosso modo, c'est ça. Mais plus de colza. En France, on a 2,2 millions d'hectares de graines oléagineuses. Donc il y a plus de la moitié de ces surfaces-là qui passent chez M. Belin. Alors là-dessus, on récolte 2 millions de tonnes à peu près d'huile quand on triture ça, donc le restant c'est des tourteaux. Alors, il y en a une partie qui passe en huile alimentaire, c'est à peu près 700 000 tonnes, dont une petite moitié qui est conditionnée en petites bouteilles de 1 litre qu'on trouve dans le commerce. Le restant, c'est de l'huile alimentaire, mais qui va plutôt pour des usages industriels, enfin pâtisserie industrielle, des choses comme ça. Et puis, 1,3 million de tonnes, donc le solde, qui sont des huiles qui sont seulement semi-raffinées et qui partent pour la production d'énergie essentiellement, un petit peu pour l'oléochimie, mais surtout pour le diester. Alors voilà, le diester, il arrive là. Donc 2,1 millions de tonnes produits en 2011, il faut une tonne d'huile pour faire une tonne de diester. Donc là, vous voyez déjà que Sophie Protéol est obligée d'importer de l'huile. Pour faire ces 2,1 millions de tonnes de diester, il n'a pas assez de 1,3 million de tonnes d'huile. Donc, il y a des importations, surtout huile de soja et un petit peu d'huile de palme. Alors, autre volet, bon, chimie renouvelable, c'est quand même assez marginal. Et puis, nutrition animale, un poste très important depuis que la société Sophie Protéol a racheté en 2007 la totalité de l'entreprise Glon-Sanders. Ils avaient déjà des parts minoritaires dans Glon-Sanders depuis 2002 ou 2003, parce qu'ils voulaient s'assurer de déboucher pour le tourteau de colza. Parce que quand vous triturez 4,7 millions de tonnes de graines de colza, vous récupérez quand même pas loin de 2,7 millions de tonnes de tourteaux de colza. Donc il faut quand même arriver à les placer quelque part. Et puis, donc là, le pôle nutrition animale est un pôle qui est devenu très important dans l'activité industrielle. Alors à côté de tout ça, il y a toute une autre activité financière parce que ils ont des parts de Sophie Protéol a des parts des prises de participation parfois majoritaires dans plein de secteurs. Andrix génétique, ça c'est de la génétique animale plutôt porcine, et puis notamment la presse agricole, Agrapresse, Sophie Protéol, ils ont pris des parts dans la France agricole. Vraiment ils verrouillent bien. Alors donc, en résumé de ça, Sophie Protéol aujourd'hui, l'activité diester à elle seule, elle représente 40% du chiffre d'affaires agrégé du groupe. Et l'activité diester mobilise la totalité de l'huile produite par Sophie Protéol, sachant qu'il y a encore de l'huile en plus qui est vendue en alimentaire. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a des importations. Voilà. Et la production d'huile alimentaire ne représente qu'un tiers. Donc, qui est le fonds de commerce, le cœur de métier de Sophie Protéol, c'est quand même l'huile alimentaire, ça représente plus qu'un tiers en volume par rapport au diester. Donc, vraiment, c'est une activité qui s'est complètement orientée sur la production de diester, et là, c'est vraiment le travail de Xavier Belin. Il est arrivé en 2000 à la tête de Sophie Protéol, il y avait 400 000 tonnes de capacité d'estérification. Aujourd'hui, on est à 2 400 000 tonnes. Au moins. Donc 6 fois plus. Voilà. Donc vraiment, Sophie Protéol, donc Belin, président de Sophie Protéol, c'est diester. Okay, donc vraiment, Sophie Protéol, il est mouillé jusque-là dans les agrocarburants. Pourquoi est-ce qu'on produit des agrocarburants? C'est quand même la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'on produit des agrocarburants? L'objectif fondateur en Europe des agrocarburants, il remonte aux années 80-90. À cette époque-là, l'Europe commençait à être en surproduction structurelle sur certains produits agricoles, notamment les céréales. Céréales, graines oléagineuses, on était en surproduction par rapport à la demande solvable. Bon, je ne dis pas qu'il y avait des gens qui mouraient de faim, mais au niveau de la demande solvable, et pour un industriel, c'est ça qui compte, la demande solvable, les gens qui n'ont pas moyen de payer, c'est pas trop son problème. Après, c'est un problème de solidarité internationale, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas le problème des industriels. Donc on était dans ces années-là confrontés à un problème de surproduction. Et donc il fallait trouver un nouveau débouché pour les produits agricoles. Et donc toute la démarche sur les agrocarburants, elle est partie de là, avec, vous vous souvenez, 92, réforme de la PAC, mise en jachère. Bon ben hop, ça a été l'opportunité pour Sophie Protéol de mettre en place la filière diester. Parce que, bon, ici, je ne sais pas trop si vous êtes concernés, mais chez nous, on était assez fortement concernés par les jachères. Donc, on a décidé de mettre 15% des surfaces SCOP, donc céréales, surfaces en céréales protéagineux, oléagineux, en jachère, et la filière oléagineux a obtenu que les agriculteurs aient le droit de produire du colza énergétique sur ces jachères-là. Et donc, à partir de 92, et donc c'est là que la filière diester elle a démarré, avec le colza énergétique qui était produit sur les jachères, qui était payé nettement moins cher que la graine de colza alimentaire, puisque les agriculteurs étaient déjà payés pour ne rien faire sur leurs jachères. Donc on leur donnait un petit peu d'argent pour le colza énergétique, un petit peu supérieur à leur coût marginal de production, pour que ça vaille le coup pour eux. Et donc la filière diester a démarré avec une matière première à bon marché. Les graines de colza qui étaient pas chères. Le tourteau, donc avec la graine de colza, on fait du tourteau et de l'huile. Bon, le tourteau, il était vendu au prix normal sur le marché alimentaire. Donc le tourteau, à lui tout seul, pratiquement, il payait la graine. Et l'huile, eh ben, c'était gratos. Et donc, on a démarré la filière diester avec cette matière première-là. Donc ça a démarré en 93. Bon, voilà, donc ça, c'est l'objectif fondateur. Hein. C'est à cause de ce contexte de surproduction agricole qu'on s'est lancé dans les agrocarburants. Non seulement, pour vendre ça au grand public, c'est quand même pas terrible. Donc, il a fallu trouver d'autres objectifs. Le premier objectif qui a été mis en avant, dès 92, l'amélioration de notre indépendance énergétique. On est complètement dépendant du pétrole pour les transports routiers. Qu'à cela ne tienne, avec les agrocarburants, les céréales, le colza dont on ne sait pas quoi faire, on va transformer ça en carburant et du coup on va économiser du pétrole. Formidable. Bon, ça, c'est un premier argument. Il y en a un deuxième qui est arrivé, 92, sommet de Rio, les gaz à effet de serre, ça, quoi, changement climatique, gaz à effet de serre. Ah, mais il n'y a pas de problème, les agrocarburants, ça va aussi régler le problème de l'effet de serre. Tout simplement parce que quand vous brûlez de l'éthanol ou du diester dans votre voiture, le gaz carbonique qui sort du pot d'échappement, il a été prélevé par la plante l'année d'avant dans l'atmosphère. Donc le CO2 qui est craché par la voiture quand vous roulez au diester ou quand vous roulez à l'éthanol, eh ben, il n'augmente pas le taux de CO2 dans l'atmosphère, puisqu'il a été prélevé par la plante l'année d'avant. Donc c'est miraculeux, on est vraiment gagnant sur tous les tableaux. Donc on y va, donc on est parti, et donc aujourd'hui on est dedans.
Parce que certains s'en iront, hein, vu la façon dont tu as présenté ce dernier point, dit tout de suite pour eux qu'en fait le miracle n'a peut-être pas lieu.
Le miracle n'a pas lieu.
Il y aura moins d'effet de surprise pour les autres, mais au moins cela voilà.
Donc,
pas avec une idée.
Donc moi, mon objectif en tant que citoyen et en tant que paysan aussi, ça a été de dire, est-ce que ces objectifs-là sont pas atteints? Est-ce que ces objectifs-là sont réellement atteints? Parce que le problème, et il y avait déjà quand même pas mal d'études qui circulaient, notamment aux États-Unis où ils étaient barrés dans l'éthanol de maïs depuis plus longtemps que nous, il y avait des gens qui disaient, non, attendez, pour produire du maïs, vous avez besoin de mettre du fioul dans le tracteur, vous avez besoin d'acheter du gaz naturel pour fabriquer de l'engrais azoté, puis l'éthanol, il se fait pas tout seul, puis il faut le distiller, puis ceci, puis cela, donc ça coûte quand même de l'énergie, et ça génère des émissions de gaz à effet de serre. Donc, est-ce que le bilan, il est effectivement positif? Bon, donc moi, c'est ça qui m'a motivé pour creuser ce dossier-là. Alors, il y a eu quand même des études de fait officielles pour démontrer que l'objectif était atteint. En particulier, l'étude ADEME-DIREM 2002, qui est ce gros pavé-là, et donc qui est le fondement de la politique des biocarburants que aujourd'hui on vit avec les usines qui sont construites, donc chez vous, l'usine d'éthanol de Lac. Donc moi, je me suis procuré cette étude très difficilement, je l'ai analysée et j'ai vu que l'étude était bidon de A jusqu'à Z. Bon, j'étais le premier à le dire, après il y a eu d'autres personnes qui l'ont dit, dont des chercheurs patentés de l'INRA, qui l'ont payé assez cher, mais enfin bon. Le bilan des courses, au Grenelle de l'environnement, on a obtenu qu'il y ait une nouvelle étude qui soit faite, exhaustive et contradictoire, parce que les ONG se sont mis là-dedans.
En 2008 alors.
2008, oui c'est ça. 2008, donc Grenelle de l'environnement, et donc il y a une nouvelle étude qui est lancée, bon, qui est malheureusement à nouveau confiée par l'ADEME, qui est malheureusement tout à fait incontournable en France sur ces questions-là, et j'ai pu siéger au comité technique de l'étude, parce que je commençais déjà à être connu comme expert, et il n'y en avait pas beaucoup sur la place qui était disponible pour faire du boulot bénévolement, donc j'ai pu participer pendant 2 ans à la 20aine de réunions du comité technique. Et donc j'ai récupéré toutes les informations pour pouvoir faire les calculs, parce que je me doutais bien que les calculs ne seraient pas bien faits. Alors voilà, donc là, mon analyse depuis cette époque-là, y a peu de monde qui sont capables de la contester. Donc aujourd'hui, on a 2 familles d'agrocarburants, Donc l'éthanol qui est utilisé en substitution à l'essence. Donc on a un objectif d'incorporation d'à peu près 1,1 million de tonnes par an en France. Et donc cet éthanol est produit avec des plantes à sucre. C'est, le principe, c'est qu'on prend du sucre, on fermente, on a de l'alcool. Bon, ça, c'est, on sait faire, hein, dans tous les pays du monde, on sait faire. Et donc, toutes les matières premières agricoles qui contiennent du sucre, ils peuvent être utilisées. Donc, en France, on utilise les céréales, donc maïs et blé, et on utilise la betterave sucrière. Dans le monde, on utilise surtout la canne à sucre. Mais on peut aussi utiliser le riz, le manioc, ça se fait. Bon, alors, les surfaces, en termes de surface, aujourd'hui en France, on est en maïs et blé confondus, donc il y a que, en fait, il y a que, grosso modo, blé, il y a deux usines, une à côté de chez moi en Seine-Maritime, une dans la Champagne, et en maïs, il n'y en a qu'une seule qui est chez vous. Par contre, il y en a beaucoup aux États-Unis. Donc, 223 000 hectares, blé-maïs, sur 6,4 millions d'hectares. Donc là, on peut dire que ça reste quand même relativement marginal. Et puis, la betterave, 40 000 hectares sur 373 000 hectares de betteraves cultivées en France. Bon, ça reste, bon, là, c'est un petit peu plus fort, c'est un peu plus de 10%, ça reste quand même relativement marginal. L'éthanol. Bon, parce que l'objectif d'incorporation est faible et parce que la production d'éthanol par hectare est relativement forte. Changement de décor pour les esters méthyliques d'acide gras, donc en abrégé EMAG, qui sont utilisés en substitution au gasoil. Donc, l'éthanol, ça va dans l'essence, les esters méthyliques, ça va dans le gasoil. Alors, objectif d'incorporation en France, plus de 3 millions de tonnes par an. Donc là, c'est 3 fois plus que... Parce qu'en France, on consomme 3 fois plus de gasoil que d'essence. Alors, c'est produit à partir des huiles végétales, pour l'essentiel, et depuis assez peu de temps, à partir des graisses d'animaux. Donc ça, c'est, je sais pas qui c'est qui ramasse les carcasses des animaux trouvés morts chez vous, mais bon, tous ces gens-là, ces carcasses, elles partent dans les centres de traitement, elles sont cuites. Et par la cuisson, vous séparez la graisse des autres produits, donc la viande, les cuirs, les os, tout ça, ça part en farine, ça part dans les cimenteries. Bon, avant, ça partait en alimentation animale, depuis la vache folle, on n'a plus le droit. Donc ça part en cimenterie. Et la graisse, eh ben, on va en parler de la graisse. Donc la graisse, on peut l'estérifier, et comme les huiles végétales. Et puis les huiles usagées, l'huile de friture usagée. Alors le gisement est quand même relativement faible. Donc 1 kg d'huile ou graisse, on rajoute 100 g de méthanol, on récupère 1 kg d'ester méthylique et 100 g de glycérine. Le poids, le bilan massique, c'est 1 pour 1 à peu près. Donc, les graisses animales, le gisement potentiel, c'est 2 millions, c'est 220 000 tonnes, donc on est loin du compte. Et les huiles usagées, c'est 60 000 tonnes seulement. De toute façon, le gros paquet, c'est là. Et Belin, il est là-dessus. Alors, donc, 2,2 millions d'hectares cultivés en France, en graines oléagineuses, ça suffit tout juste pour atteindre l'objectif de 3 millions de tonnes. Bon, mais comme il y a des importations, en 2010, l'ONUGC estimait que 64% des surfaces en oléagineux en France étaient consacrées au diester. Bon, c'est quand même énorme. Au niveau mondial, on produit surtout de l'éthanol. Donc, numéro 1, les États-Unis à partir du maïs. Numéro 2, le Brésil à partir de la canne à sucre, avec une production qui est variable d'année en année. Parce que le Brésil, avec la canne à sucre, on fait soit du sucre, soit de l'éthanol. C'est aussi, ça coûte pas plus cher de faire l'un ou l'autre. Donc en fonction du prix du sucre et du prix de l'éthanol, ils font soit du sucre, soit de l'éthanol. Aujourd'hui, ils font très peu d'éthanol parce que le sucre est très cher. Bon, donc 40 millions de tonnes équivalent pétrole d'éthanol carburant et 16 millions de tonnes équivalent pétrole, donc d'agrodiesel, j'appelle ça, principalement produit en Europe à partir des huiles végétales. Bon. Petite remarque, donc en tout dans le monde aujourd'hui, on produit 40 plus 16, 56 millions de tonnes équivalent pétrole d'agrocarburant. En France, on consomme chaque année 48 millions de tonnes de carburant. Ok, donc la production mondiale d'agrocarburant aujourd'hui suffit pour faire la consommation de carburant de la France et de la Belgique et du Luxembourg, on va dire, pour voir large. Ok, donc il faut relativiser. Vous avez tous entendu des produits, des problèmes que ça commence à poser. Aujourd'hui, on en est là. Donc, il ne sera jamais question de remplacer la totalité du carburant qu'on consomme dans le monde. C'est impossible. Bon, voilà. Donc ça, il faut bien... Il y a un concurrent au niveau mondial de Sophie Proteol, c'est Neste Oil, et qui a sur un autre procédé qui permet de transformer l'huile végétale en diesel de synthèse. Et donc, c'est un procédé qui est plus intéressant que les spécifications de Sophie Proteol, surtout parce que la matière première, c'est de l'huile de palme qui est peu adaptée à l'estérification. Enfin, c'est un petit détail, mais qui a son importance par la suite. Voilà, donc ça c'est des résultats qui ont été publiés par l'étude ADEN BioIS, donc Bio-Intelligence Service du Bureau d'études, à laquelle j'ai pu participer. Alors, au niveau du bilan énergétique, c'est la colonne du haut. Donc là, je vous ai mis l'efficacité énergétique, c'est-à-dire pour une unité d'énergie fossile que je mets en œuvre, combien est-ce que j'en récupère sous forme de carburant ? C'est ça l'efficacité énergétique. C'est quelque chose qui... C'est un ratio qui permet d'évaluer l'efficacité, enfin qui permet d'évaluer l'intérêt d'une énergie, notamment les énergies renouvelables. Alors, pour le gasoil, on est à 0,8, inférieur à 1. Ben oui, parce que quand vous allez chercher au fond du puits une unité d'énergie de pétrole brut, il faut l'extraire, il faut la transporter, il faut la raffiner. Tout ça, ça coûte 20% de l'énergie finale. Donc vous avez un peu moins. Ester méthylique du végétal de colza, on est à 2,16. Bon, a priori, ça paraît pas trop mal. Bon, sauf que Belin, juste avant que cette étude soit produite, il annonçait 3,5 sur la foi d'études tout à fait sérieuses, notamment par PricewaterhouseCoopers. Seulement dans ces études, ben, ils avaient oublié un intrant, qui était très impactant pour le bilan énergétique, notamment. Ils avaient oublié un intrant, donc c'est moi qui ai dit, attendez, regardez dans les arrêtés préfectoraux, vous avez des capacités de stockage pour du méthylate de sodium. Oh, je vois pas le méthylate de sodium dans votre procédé industriel. Ah oui, vous avez raison, on en utilise un petit peu, trois fois rien, machin, pouf, il donne ce qu'il consomme, le bureau d'études fait ses calculs, boum, l'efficacité énergétique se casse la figure. Bon. Enfin, 2,16, bon, a priori, c'est pas trop mal. Alors, l'HVP, donc l'huile végétale brute de colza, c'est ce que peut-être certains d'entre vous font, on est bien mieux, puisqu'on est à 4,4. Bon, ça, c'est les esters méthyliques de graisse animale dont je vous ai parlé tout à l'heure, on est à peu près au même niveau. Pourquoi on est au même niveau? Parce que le bureau d'études, sur avis du comité technique, on dit la graisse, les graisses animales, c'est un déchet. Donc, on considère que le coût d'obtention de la matière première est nul. Donc, forcément, quand vous faites par rapport à un colza où vous devez vous emmerder à cultiver du colza, c'est sûr que quand vous avez la matière première qui vous tombe tout cuit dans le bec pour un coût nul, c'est sûr que vous avez un bon bilan. Bon, bilan effet de serre, c'est le même calcul, sauf que, on calcule, quand on brûle une unité d'énergie, donc en l'occurrence un mégajoule de carburant, qu'est-ce qu'on émet comme effet de serre? Donc la référence est le gasoil, 91,4 grammes équivalent CO2. Bon, c'est un chiffre, bon, qui n'est pas utile de retenir, mais l'intéressant c'est de voir à quoi on arrive avec les carburants de substitution. Donc, ester méthylique du végétal de colza, bon, effectivement, on est un peu moins de 40, on est un peu moins de la moitié, donc c'est bon. Huile végétale de colza, ben, c'est encore plus pertinent. Hein. Et puis, bon, ce qui est plus pertinent, c'est ça, effectivement, parce que ben, là, ça, pratiquement, on n'émet rien. Bon, donc, quand on voit ce tableau-là, on se dit, c'est bien. Le diester, c'est bien. Bon, l'huile végétale de colza, c'est quand même mieux. Et puis finalement, c'est quand même les graisses animales qui sont mieux. Ben oui, mais le problème des graisses animales, c'est que c'est un déchet, mais seulement on en fait quelque chose. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est cuit. Ça sort de la cuisine, dans les centres d'écarichage, vous avez les graisses qui coulent. Et puis les graisses, elles servent à quoi ? Ben, elles servent à faire chauffer. Elles servent de combustible dans les centres de traitement. Donc le jour où vous allez, ces graisses-là, vous allez les enlever pour aller les estérifier, donc vous les sortez, vous les transportez, vous les estérifiez, vous remplacez du gasoil. Oui, mais seulement dans les centres d'écarissage. Ils vont devoir utiliser du fioul domestique ou du gaz naturel pour faire leur cuisine. Donc bilan des courses, aucun intérêt. Hein? Alors moi je l'ai dit ça au comité technique, hein? J'étais tout seul, 40 personnes, il y a Patrick Sadon, ah non mais attendez, moi je suis pas d'accord avec votre analyse, c'est un déchet mais vous vous en servez, vous allez devoir acheter du machin. Non, on fait comme ça. Ah bon, bah oui c'est la démocratie cause toujours. J'avais le droit d'exprimer mais seulement à la sortie, voilà. Bon donc voilà, alors donc sur la foi de ces résultats-là, ils ont obtenu que de la Commission européenne d'abord, et du gouvernement français ensuite, bon, qui est bien obligé de suivre la Commission européenne, que dans les objectifs d'incorporation, comme là c'est très très bon, eh ben ça compte double. Aujourd'hui on est à 7%, on doit mettre 7% d'ester méthylique d'acide gras dans le gasoil. Mais si le distributeur de carburant il choisit ça, il peut mettre que 3,5%. Donc finalement, hop, tout le monde essaye de... Du coup ça a vraiment boosté ça a vraiment boosté les esters méthyliques de graisse d'animal et ils sont en train de se faire des couilles en or avec ça. Sauf que pendant ce temps-là, ils achètent du fioul et du gaz naturel pour faire leur cuisine. Enfin, bon, ils gagnent de l'argent. Aujourd'hui, c'est ça qui compte, hein, le restant. Bon, alors, tout ça, c'est très bien, sauf qu'au niveau de l'effet de serre, il y a un gros problème. Mais vraiment un très, très gros problème. C'est que quand vous avez... mettons, je suis agriculteur, je fais un hectare de colza, et puis je décide de signer un contrat chez Diester Industries. Donc avant, mon colza, il part en alimentaire, je signe le contrat chez Belin, et donc mon colza, il va dans le circuit énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cultive mon colza comme d'habitude, il n'y a pas de changement, je le récolte, il s'en va à l'usine Cepol, comme d'habitude, enfin il s'en va d'abord à la COP, après il s'en va à l'usine Cepol. Trituration, donc d'un côté j'ai le tourteau, de l'autre côté j'ai l'huile, bon le tourteau ça ne change rien, par contre l'huile au lieu d'aller dans l'alimentaire, elle va dans l'énergétique, elle va dans les réservoirs de bagnole. Bon, léger problème, c'est qu'il faut quand même nous continuer à nourrir les gens. Donc ça veut dire que ce déficit d'huile alimentaire, il faut bien le compenser. Bon, et il est compensé par quoi? Par des importations d'huile. Des importations de huile de quoi? De palme. Si on regarde dans les années 2000, l'évolution de la production du diester qui a vraiment augmenté, elle est parallèle aux évolutions des importations d'huile de palme. Donc si je me mets à demander au marché mondial plus d'huile de palme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois planter plus de palmiers à huile. Bon, la plantation de palmiers à huile, je pense que vous connaissez comment ça se fait. On a une belle forêt intertropicale, hop, tronçonneuse, bulldozer, feu, et hop, on dégage le terrain et puis on plante des palmiers à huile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire changement d'affectation des sols. J'avais une forêt tropicale avec... Bon, le tableau suivant, on va pas trop voir, mais on avait, ça c'est le tableau que le bureau d'études, à ma demande, a fait pour essayer d'évaluer quel était l'impact de ce changement d'affectation des sols. Donc j'ai une forêt tropicale qui contient 247,5 tonnes de carbone hectare, les arbres et l'humus du sol, les racines, tout ça. Je coupe tout ça, je remplace par une plantation de palmiers à huile, qui, au bout de 20 ans, une fois qu'elle a atteint sa pleine maturité, ne contient plus que 110 tonnes de carbone hectare. Différence, 137,5 tonnes de carbone hectare. Bon. Alors, on déroule le calcul. Combien est-ce qu'il faut d'hectares de palmiers à huile pour remplacer un hectare de soja, de colza qui va plus, machin. On arrive à un résultat. On amortit la différence sur 20 ans. Parce qu'on estime qu'au bout de 20 ans, la situation est stabilisée. Bon, enfin, tout ça, on peut discuter des critères. Bon, je vous passe les détails. On arrive à la sortie. Valeur attribuée à l'hectare de culture de biocarburant, 7403 kg équivalent CO2 par hectare et par an. Bon, c'est un chiffre qui dit absolument rien. Moi, j'ai demandé au bureau d'études, il manque une ligne. Vous me rajoutez, ramenez au mégajoule de carburant que j'ai produit. Ils n'ont pas voulu le mettre. Pourquoi? Parce que si on fait le calcul, on arrive à 145 grammes équivalent CO2 par mégajoule. 145 grammes équivalent CO2 par mégajoule. Je vous rappelle que le gasoil, il est simplement à 91. Donc quand on a inclus le changement d'affectation des sols, l'impact du changement d'affectation des sols dans le bilan effet de serre du biodiesel de Xavier Belin, eh ben, on arrive à 180 grammes, deux fois plus que le gasoil remplacé. Bon, malheureusement, l'HVP, c'est pareil. L'impact effet de serre du changement d'affectation des sols, à lui tout seul, plombe le bilan effet de serre des agrocarburants. Donc l'objectif, il n'est pas atteint. Bon, vous allez me dire, bon, l'essentiel, c'est qu'on économise de l'énergie. Bon, effectivement, ça reste qu'on économise, effectivement, on économise de l'énergie. Mais quel est le problème le plus important pour l'humanité? Est-ce que c'est la ressource en carbone fossile qu'il faut économiser ou est-ce que c'est les émissions de gaz à effet de serre? Eh bien, il n'y a pas photo. C'est le deuxième point. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de carbone fossile sous nos pieds. Du pétrole conventionnel, bon, il n'en reste plus trop, mais il reste beaucoup de pétrole non conventionnel. On a du gaz naturel, on a maintenant les gaz de schiste. On a le charbon. Charbon, énorme les réserves. 300 années de consommation de charbon. On peut y aller. On peut y aller, on peut consommer du carbone fossile. Seulement, une fois qu'on aura sorti tout ce carbone fossile pour nos besoins énergétiques, quand vous brûlez du carbone fossile, vous faites quoi? Vous faites du CO2. Le CO2, pouf, vous le retrouvez dans l'atmosphère, Et eh ben, ça fait de l'effet de serre. Avant, en 1800, avant qu'on ait commencé à faire de sortir le charbon pour la révolution industrielle, on avait 250 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça fait en pourcent, ça doit faire en pour mille, ça fait 0,2,5 pour mille. Aujourd'hui, on est rendu à 400. On sait qu'il ne faut pas qu'on dépasse 550 parce que sinon après on ne sait pas du tout ce que ça va donner au niveau du climat. En tendanciel, les scénarios du GIEC nous disent que si on continue sur notre lancée aujourd'hui, on va être avant la fin du siècle entre 600 et 700. Quand on aura sorti tout ce carbone fossile, on sera à 2000. Il fera 70 degrés en moyenne à la surface de la planète. On aura tous grillé bien avant ce temps-là. Il ne restera plus rien. Le problème de l'humanité, c'est pas le problème de la ressource en carbone fossile. On n'en verra jamais le bout du carbone fossile. Le problème, c'est l'effet de serre. S'il y a un seul message que vous devez retenir de ce que je vous ai dit là, c'est celui-là. Le problème de l'humanité, c'est l'effet de serre. Donc les agrocarburants, faut arrêter tout de suite. Faut arrêter tout de suite. Bon, on n'est malheureusement pas parti pour. Bon, alors, efficacité énergétique quand même relativement faiblarde. Je vous ai dit, on est à un peu plus de 2 pour le diester de Belin. Bon, quand vous brûlez du bois déchiqueté dans votre chaudière, vous êtes à une efficacité énergétique de 15. C'est beaucoup, beaucoup plus fort. Donc forcément, les émissions de gaz à effet de serre à la clé, elles se trouvent réduites. Quand vous construisez une éolienne, si vous regardez l'énergie que vous mettez en œuvre pour la construire, pour l'entretenir, pour la déconstruire, il ne faut pas oublier non plus qu'on ne doit pas laisser les merdes comme ça dans la nature, une fois que c'est... Bon, pour les centrales nucléaires, ils le font, mais bon, normalement, on ne devrait pas. Bon, si vous prenez tout ça, vous regardez combien d'énergie fossile ça vous coûte, vous regardez combien d'énergie électrique l'éolienne a produit, vous êtes à 20 fois plus. Efficacité énergétique de 20. Voilà ça. Donc 2, bon, panneau solaire, c'est moyen, entre 4 et 5. Bon, là, on est à 2. C'est vraiment faible. Hein, pour une énergie renouvelable, c'est faible. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour que ça soit économiquement rentable pour Monsieur Belin, parce que Monsieur Belin, il aime bien l'argent. Hein. Bon, tout le monde aime bien l'argent, mais bon, il y a des degrés. Il a besoin que ça tourne, ces affaires-là. Sinon, il ne l'aurait pas construit. Donc, il y a 2 dispositifs qui ont été mis en place pour soutenir les filières. Le premier, c'est ce qu'on appelle la défiscalisation. Alors là, je vais les termes entre guillemets, parce que comme arnaque, c'est bien comme terme ça. La défiscalisation, les gens se disent « Ah ben oui, c'est bien, c'est défiscalisé, ça nous coûte moins cher. » Mais non, ça vous coûte 2 fois plus cher. Je vous explique pourquoi. Comment que ça se passe? Quand vous achetez du gasoil ou de l'essence à la pompe, vous payez de la TIC, anciennement la TIPP, qui est à un niveau extrêmement élevé en France, hein, puisqu'on est à 43 centimes d'euros par litre sur le diesel et 60 centimes d'euros par litre sur l'essence. En plus, vous avez de la TVA 19,6 qui vient se rajouter là-dessus. Hein, ça cube. On aime bien les taxes sur les taxes en France. Hein. Bon, et alors la défiscalisation, c'est quoi? Donc ça a été mis en place depuis 1993, à un niveau très élevé maintenant. L'État renonce à une partie de cette taxe que vous payez pour la reverser aux industriels des agrocarburants en complément de prix du carburant qu'ils vendent. Alors 8 centimes d'euros par litre, ça a l'air énorme, ça fait à peu près 38 euros par tonne de colza. Bon, 38 euros par tonne de colza, une tonne de graines de colza, c'est payé 500. Bon, on se dit, c'est pas trop important. Pour l'éthanol, c'est plus ennuyeux, 14 centimes par litre d'éthanol, ça représente 50 euros par tonne de maïs, 50 euros par tonne de blé. Bon, le maïs éthanol, il est payé 150 euros. Le blé éthanol est payé 150 euros. Donc la défiscalisation à elle toute seule, c'est un tiers du prix du maïs éthanol, un tiers du prix du blé éthanol, qui est déjà pas payé très cher aux producteurs. Hein? Bon, mais les coopératives continuent de livrer parce qu'il faut bien faire tourner les usines. Puis pour les betteraves, c'est encore pire, puisque 14 centimes par litre, c'est à peu près 14 euros la tonne de betterave. Une tonne de betterave éthanol, c'est payé 21 euros. Donc, c'est pas demain la veille que les producteurs de céréales éthanol ou betterave éthanol, ils vont gagner de l'argent avec ce qu'ils font. Parce que la défisque... Alors, là, on est à des niveaux qui sont très bas, mais ça a démarré beaucoup plus fort que ça. Quand l'usine Thériault de Lillebonne a démarré à côté de chez moi, la défiscalisation, ça payait le blé plus la main d'œuvre. Là, c'est peinard, on peut y aller. Hein. Bon, voilà. Donc ça, premier dispositif, la défiscalisation. Donc vous comprenez vraiment l'arnaque qu'il y a derrière ce terme-là. Hein. Défiscalisation, pour vous, c'est pas défiscaliser du tout. Hein. Vous payez à la pompe, et puis en plus, bon, bah, le manque à gagner, c'est quand même du manque à gagner pour le budget de l'État. Bon. Enfin, on va parler des détails, mais en fait, c'est pour l'éthanol, c'est complètement compensé, parce que, en fait, comme la densité énergétique de l'éthanol est beaucoup plus faible que celle de l'essence, vous devez en acheter beaucoup plus pour faire le même kilométrage. Donc, en fait, l'État se sucre aujourd'hui sur l'éthanol. Bon, sur le diester, c'est un petit peu moins vrai, mais sur l'éthanol, l'État gagne de l'argent aujourd'hui sur l'éthanol. Deuxième dispositif, parce que ce dispositif-là, il n'était pas contraignant. Les distributeurs de carburant, ils faisaient ou ils ne faisaient pas. Bon. Sur les systèmes éthyliques, ils ont fait plus tôt, parce que tout le monde était d'accord pour faire ça. Sur l'éthanol, ça a été plus difficile. Donc, en 2005, les éthanoliers ont demandé à ce que les objectifs deviennent contraignants, parce qu'ils avaient construit des usines suite au plan biocarburant de 2003, et puis finalement, les usines, ils s'apercevaient que les pétroliers ne voulaient pas incorporer d'éthanol. Bon, et donc, en 2005, on a instauré une taxe sur les carburants qui étaient mis à la consommation, par les distributeurs de carburant. Si les carburants ne contiennent pas suffisamment d'agrocarburants dedans, eh bien le distributeur de carburant il doit payer une amende qui est complètement prohibitive. Aujourd'hui, on est à 7% d'agrocarburants. Si un distributeur de carburant il décide de rien mettre, il doit payer une amende qui correspond à 7% de son chiffre d'affaires. Donc autant dire qu'il met la clé sous la porte aussitôt. Parce que les marges de distribution de carburant sont très faibles. Donc 7%, il est obligé de vendre son carburant beaucoup plus cher que les autres, donc il ne passe pas. Donc voilà, donc depuis le 1er janvier 2005, ce dispositif-là a été mis en place. Et ça fonctionne très 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 bien. Au point que M. Belin s'en met plein les poches. Pardon ?
Juste une question. Tu as dit tout à l'heure que les céréales qui servent à faire de l'éthanol sont payées 150 euros.
Oui.
Mais celui qui produit ce céréale-là pour faire l'éthanol, le paysan, il ne perçoit pas 150 euros.
C'est ça dépend. S'il a ceux qui ont eu le malheur de souscrire un contrat d'approvisionnement, il y en a quand même quelques-uns. Bon, lui, il l'a dans le cul jusqu'à la fin de son contrat. Donc il est obligé de livrer au prix qu'on lui paye. Par contre, les autres producteurs sont théoriquement pas engagés, donc ils s'en foutent. Sauf que les coopératives se sont engagées à livrer. Donc, en fait, les coopératives, elles se sont engagées à livrer. En plus, comme elles ont des billes dans les usines, il faut que ça tourne. En plus, il ne s'agit pas de se déjuger, parce qu'il y a un connard qui s'appelle Patrick Sadon qui est allé les voir en 2005 et leur a dit « Surtout, faites pas ça, vous allez vous gaufrer. » Bon, ils m'ont pas cru, forcément. La Confédération paysanne, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces mecs-là? Bon, seulement aujourd'hui, ils sont en train de se gaufrer. Mais comme ils veulent pas me donner raison, puis ils veulent pas se déjuger, ils continuent. Bon, donc les coopératives continuent d'approvisionner. Bon, il y en a certaines autour de Bazancourt, avec des directeurs de coop qui sont un petit peu plus respectueux des intérêts des coopérateurs, qui ont fait casser les contrats d'approvisionnement devant le tribunal administratif en disant « Attendez, ils nous avaient annoncé une bonne rémunération, regardez, nana, c'est de la merde votre truc, hop, et ils ont gagné. » Mais bon, ça n'a pas fait trop tâche d'huile. Hein. Les coopératives sont généralement bien tenues par un certain syndicat. Bon, et donc, ce qui se passe, c'est que la coopérative, elle mutualise le coût à l'ensemble des producteurs. Tous les producteurs de maïs qui vont livrer dans les COP, machin, qui se sont engagés avec Abengoa, là, eh ben, au fait, au lieu d'être payés 250, ils sont payés que 240. Et puis avec les 10 euros, comme généralement les coopératives se sont engagées à hauteur de 10% de leur collecte, eh ben, elles peuvent sacrifier les 10% à un prix plus bas, sans que personne ne voit. Mais c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est comme ça que ça se passe. Bon, les producteurs de betteraves, c'est autre chose. Eux, ils sont d'accord pour vendre de la betterave à 14 euros parce que ils sont propriétaires des sucreries, ils ont du matos à amortir en cuma, donc il faut qu'ils conservent leur surface en betterave pour amortir. Donc, ils sont d'accord. Bon, enfin, la betterave, ça, on n'est pas très concerné ici. Bon, et alors, petite parenthèse sur Orama, qui était à l'époque présidé par Monsieur Xavier Belin, qui est pourtant pas du tout un fanat de l'éthanol. Hein. Lui, je l'ai vu deux fois en réunion, à chaque fois, il était vraiment très méprisant sur les producteurs d'éthanol parce que, à juste raison, il trouve qu'il discrédite la filière tout entière. Alors que là, sa filière à lui, c'est bien mieux, bien sûr. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu mieux. Enfin, disons que c'est moins mauvais, quoi. Enfin, sur l'effet de serre, c'est pareil. C'est aussi mauvais. Pardon ?
Orama, on ne connaît pas forcément.
Orama, donc, c'est la filière spécialisée grande culture de la FNSEA. Donc, aujourd'hui, c'est M. Pinta, un personnage tout à fait sympathique, qui est président de cette affaire-là.
Et Belin était président ou pas ?
Oui, il me semble qu'il a été président d'Orama à une époque.
Oui, mais...
Bon, je garantis pas, mais bon, il me semble bien. Enfin, de toute façon, c'était quelqu'un de très influent là-dedans.
Dans la direction.
Et donc, à une époque, donc 2008, ils ont proposé à M. Barnier de créer une cotisation volontaire obligatoire éthanol qui allait frapper l'ensemble des livraisons de céréales. Comme ça, l'effort d'approvisionnement des usines merdiques qu'ils ont construites allait être supporté par l'ensemble des producteurs agricoles, l'ensemble des paysans, et pas uniquement les malheureux paysans qui se sont engagés dans les coopératives qui ont eu la connerie de signer les contrats. Bon, là, les syndicats minoritaires ont fait leur boulot, et donc M. Barnier a dit non. Donc ça ne s'est pas fait. Enfin, c'est quand même une petite parenthèse intéressante pour voir comment les paysans sont défendus par ces gens-là. Bon, on revient à Belin. Donc, évolution du prix. Alors là, ce truc-là, ça pourrait s'appeler grandeur et décadence de Sophie Protéol. Donc, jusqu'en 2005, le prix du DSR, il se décomposait de la façon suivante. Le prix de base, c'était le prix spot Rotterdam du gasoil. Ça, c'était pris pour 1000 litres, hein, 1 mètre cube. Donc en 2005, on était à peu près à 360 euros les 1000 litres de gasoil. On rajoute la défiscalisation, qui était à l'époque de 33 centimes d'euros par litre, donc 33 euros par litre, donc 330 euros par mètre cube. Donc Belin vendait son diester à peu près 690 euros les 1000 litres. Et donc diester industrie payait l'huile à l'époque, ça c'est moi qui le dis, 475 euros, parce que il y avait encore pas mal de colza énergétique dedans, avec un prix qui était quand même plus faible que le prix du marché. Donc la marge de l'ISR Industrie sur l'achat de l'huile, c'est donc la différence entre ça et ça, 215 euros. Bon, ça, c'était déjà une marge qui était très confortable, hein, parce que les frais d'estérification sont quand même pas si forts que ça. Donc là, c'était déjà très correct. Et puis, je vous ai dit, début 2005, instauration de la TGAP. Alors là, M. Belin, pendant 2005, il s'est dit « Non, mais il y a sûrement quelque chose à faire, puisque quand je vends un mètre cube de diester à un distributeur de carburant, le distributeur de carburant, il échappe à la TGAP pour à peu près 700 euros. » Idée lumineuse. 2006, prix de base du diester, prix de base 360 euros, c'est à peu près le même prix que ça n'avait pas trop changé. Défiscalisation, bon, le gouvernement a baissé de 80 euros, donc il n'y a plus que 250. Et là, 270 euros, c'est M. Belin qui dit, bon, écoutez les gars, vous allez m'acheter du diester, pour 1000 litres de diester acheté, vous allez échapper à 700 euros de taxes. Donc vous m'en donnez 270. Ça s'appelle un racket.
Vous allez échapper à 700 euros de taxes.
Oui, parce que quand un distributeur de carburant il achète un mètre cube de diester, ça lui permet d'atteindre l'objectif d'incorporation
en vigueur. Il ne paye pas.
Il ne paye pas la TGAP. D'accord. Ok ? Bon, le mécanisme, bon, moi je ne l'ai pas compris tout de suite. Hein. C'est un distributeur de carburant qui m'a attrapé un jour à une réunion. Il m'a dit « Posez-vous là, je vous explique un truc ». Et donc, il m'a expliqué ça, parce que moi, pour le trouver tout seul, j'aurais jamais trouvé. J'ai bien vu qu'il y avait un loup, là. Je comprenais pas. 2005, bon, je comprenais à peu près. Puis 2006, bon, la prix de la graine de colza avait un petit peu augmenté. Le tourteau de colza avait un peu baissé. Bon, je comprenais pas. Je comprenais pas comment ça pouvait tourner. Puis après, il me dit ça. Ah, bah oui, d'accord, je comprends mieux. Donc voilà. Alors là, miracle, au niveau de la marge. Donc, mon prix de vente du diester, 880 euros. Les millilitres. Le prix de l'huile, 575, bon, j'ai imaginé que ça avait un petit peu augmenté parce que le colza énergétique sur les acheteurs, il fallait commencer à le payer un petit peu plus cher si on voulait que les agriculteurs ils en livrent, parce que pour faire de l'huile, du diester, il faut quand même des graines. Si les producteurs ils veulent pas mettre les graines, bon, donc il faut mettre une petite carotte. Voilà. Marge, 305 euros. Alors là, royal. Il a à peu près 50 euros de frais et puis hop, il se fout 300 euros dans les fouilles. Donc là, 2006, 2007, 2008, là, ça a été vraiment... Il croulait sur le fric. Alors, rachat de Glon-Sanders, rachat d'Hendrick Genetics, rachat de plein de trucs, dont la trois quarts des trucs, on ne sait même pas qu'ils ont racheté ça. Mais vraiment, ça croulait sous le fric. Bon, 2008, petite anecdote. Donc, le prix du gasoil a quand même vachement augmenté. La défiscalisation, elle a encore baissé. Le gouvernement, il en a marre, machin... Donc, on est baissé à 220 euros. Aussitôt, les 30 euros qu'il perd, il les récupère. Au lieu de me donner 270 euros, les gars, vous allez me donner 300 euros. Parce que moi, j'ai besoin de mes 520 euros d'écart avec le gasoil. Bon, alors, le prix, ce qui a changé quand même en 2008, c'est que le prix de l'huile a bondi. on est pressé parce que le prix de la graine ou de colza a monté, mais il conserve encore 250 euros de marge. Et puis alors là, après, ça a commencé à merder. Parce qu'en 2008, il y a un certain nombre de gens, dont Michel Édouard, Leclerc pour les intimes, il a dit, écoute, toi, tu m'énerves, j'en ai marre de te payer des chèques. Donc il a dit, ton diester, tu te le gardes. Sur Rotterdam, il y a des esters méthyliques de soja qui proviennent du Canada ou des États-Unis. Il a envoyé SESMI chercher ça, et il a dit, Belin, tu... Et donc, là, deuxième semestre 2008, ça a commencé à merder un petit peu pour Belin. Et puis surtout, ça a commencé à merder gros quand les esters méthyliques de graisse d'animal sont arrivés sur le marché, avec le double comptage. Alors là, en une année, il y a eu 300 000 tonnes de suif qui ont été importées en France, en plus de ce qui se fait habituellement, qui sont passées à l'estérification pour faire à peu près 300 000 tonnes d'esters méthyliques de graisse d'animal qui ont remplacé 600 000 tonnes de diester de Belin. Alors là, il a dû fermer deux usines et demie. Alors là, il contre à chaque coup. Hein. Les importations des États-Unis, on va contester ça devant la Commission européenne. Maintenant, c'est l'Argentine, on va contester ça devant la Commission européenne. C'est subventionné, gnagnagna. Les esters méthyliques d'huile, il a obtenu qu'on puisse en mettre que 35%. Bon, il y a quand même une raison technique, c'est que les esters méthyliques d'huile s'affichent à une température assez élevée. Donc, dès qu'il se met un peu froid, si vous avez dans votre tracteur, pouf, vous allez colmater votre filtre à huile, votre filtre à gasoil très rapidement, vous allez trouver en carafe au milieu du champ, c'est un peu emmerdant. Donc, ça, c'est pas complètement injustifié. Mais bon, aujourd'hui, là, regardez, 2012, la situation est la suivante. Donc, le prix du gasoil a encore augmenté, 660 euros. La défiscalisation, on n'est plus qu'à 80. La surprime, il a été obligé de la réduire parce que, il y a de la concurrence. Il n'est plus en monopole sur son marché. Là, il était en monopole sur un marché captif, alors ça, c'est vraiment royal pour un commerçant. Et là, donc, il a dû commencer à baisser. Et donc, il arrive à vendre son mètre cube de diester à 870 euros, seulement le mètre cube d'huile, il est rendu à 865 euros. Il a plus de 105 euros de marge. La défiscalisation, M. Hérault a dit il n'y a pas longtemps que, bon, normalement, ça devait s'arrêter mi-2013. Et puis, en fait, il est allé pleurer. Et finalement, même avec les socialistes, écoute, tu me donnes ça, sinon je te fous tous les paysans dans la rue avec leur tracteur. Ah, c'est ça, Belin, c'est ça. Il monnaie la paix sociale en agriculture. Et il obtient ce qu'il veut. Il obtient la reconduction de la défiscalisation jusqu'à fin 2015. Deux années et demie de mieux. Pour la seule année 2013, 63 millions d'euros. En année pleine, 175 millions d'euros. Il y a 400 personnes chez Sophie Protéol qui bossent sur le diester. 175 millions d'euros, 350 millions d'euros. Là, c'est ça le chèque qu'on fait à Belin. Belin, il touche un chèque. La défiscalisation, 80 centimes d'euros, 8 centimes d'euros par litre, donc 8 euros par hectolitre, 80 euros par millilitre, par mètre cube. Ça représente, pour les quantités de diester qu'il produit, ça correspond à 175 millions d'euros. Sophie Protéol, il y a 800 actifs. Mais il y en a déjà 400 chez Glon-Sanders. 4000 chez... c'est 8000. Sophie Protéol, c'est 8000 actifs, excusez-moi. Il y en a déjà 4000 chez Glon-Sanders. Ils n'ont absolument rien à foutre avec le diester. En fait, l'usine Sophie de diester industrie qui est à côté de chez moi, qui produit 500 000 tonnes de diester par an, elle emploie 100... Il y a 100 emplois plein temps sur l'usine. Il y a 100 emplois plein temps pour l'usine. Donc j'en déduis que pour produire les 3 millions de tonnes d'ester méthylique d'huile qu'on incorpore dans le gasoil aujourd'hui, il faut à peu près 6 fois plus. Donc il y a 100 bons hommes. Donc en tout, on va dire que la filière ester méthylique d'acide gras en France, elle représente 600 emplois directs. Donc 600 emplois directs. Ah oui, alors sauf que les 175 000 euros, les 175 millions d'euros, c'est uniquement pour Belin et pas pour l'ensemble de la filière. Bon, enfin, de toute façon, si on divise les emplois réels dans les usines par le montant qui touche, on est à peu près dans ces eaux-là. On est à 350 000 euros par emploi direct créé. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant qu'on puisse soutenir un secteur industriel comme ça qui ne rapporte rien. Qui ne rapporte rien et qui coûte de l'argent à la balance. Alors, qui coûte de l'argent aux automobilistes? Parce que vous voyez, là, la différence entre le prix du gasoil et le prix du diester, c'est vous qui l'a payé. C'est vous qui l'a payé, majoré de la TVA à 19,6%. Donc l'État est quand même bien content de cette affaire-là, parce que ça lui permet de prendre encore plus d'argent sur les automobilistes. Bon, on va conclure. Bon, là, c'est des petits graphiques qui permettent d'illustrer ça. Vous voyez ? Là, c'est les... Parce qu'il y a un marché, il y a une cotation mondiale pour les biodiesel. Moi, j'aime pas ce terme-là, mais bon. Il y a une cotation mondiale qui est très forte. Là, vous avez le prix du gasoil. Et là, vous avez le prix de l'essai méthylique de colza. Et là, c'est le prix de l'essai méthylique d'huile de palme. Bon. Donc, il y a un prix mondial avec une très forte corrélation entre le prix du gasoil. Enfin, le prix des essais méthyliques est indexé sur le prix du gasoil au-dessus. Bon, normalement, ça devrait être plutôt en dessous parce que une tonne de gasoil, vous faites plus de kilomètres avec votre voiture si vous brûlez une tonne de gasoil qu'une tonne de diester. Enfin, bon. Alors, jusqu'à ces années-là, cette courbe-là, Belin, il n'en avait strictement rien à cirer puisqu'il était sur son marché captif français. Il imposait le prix qu'il voulait. Mais aujourd'hui, avec la concurrence qui se met en place, notamment les petits trucs courbes là, qui sont arrivés en juillet 2010, hein, ça, c'est les esters méthyliques d'huile usagée, et ça, c'est les esters méthyliques de graisse animale. Vous voyez, ça, c'est arrivé sur le marché. Donc là, sa petite surprise, Belin, là, ben, c'est, maintenant, c'est réduit, parce qu'il est obligé de se conforter à cet écart-là. Okay, donc il commence à être mal, et finalement maintenant en 2012 le bonus qu'il a, ça correspond pratiquement à la défiscalisation. Et Hérault a dit que la défiscalisation serait supprimée au 31 décembre 2015. Donc là il a quand même des soucis à se faire. Bon, comme c'est quand même un homme de ressources, hein, bon, je vous passe certaines petites anecdotes qui sont assez croustillantes sur ce qu'il est capable de faire ce monsieur-là. Mais vous avez entendu parler de la taxe Nutella dernièrement. Taxe Nutella, ça vient de chez qui ? Ben, ça vient de chez Belin. Parce que Belin, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont abandonné, pour faire son diester, ils ont abandonné leur marché, les marchés qu'ils avaient sur l'huile alimentaire, qui partait notamment pour les produits industriels. Ils ont abandonné ça à l'huile de palme pour faire du diester. Bon, maintenant, il a déjà anticipé qu'il allait se gonfler sur son diester dans quelques années, donc il voudrait récupérer ces marchés-là. Donc, il passe un petit coup de fil à l'Elysée ou à Matignon, machin, tiens, il me faudra une taxe sur ceci, ça, sur cela. Hop, la taxe Nutella, on va taxer les incorporations d'huile de palme dans les produits alimentaires pour refaire un peu de place aux huiles de colza et de tournesol. Bon, un petit calcul là, qu'on voit sur ces courbes-là. Donc là, sa marge, elle est en train de se réduire, et enfin surtout il peut plus racketter les gens comme il faisait avant, parce que maintenant il a des concurrents. En plus, ben, c'est vrai que les esters méthyliques d'Argentine, ça commence à rentrer, hein. Donc les distributeurs de carburant, surtout en zone frontalière, Belin, il commence à lui dire, bon, écoute, tu t'es largement sucré sur nous, maintenant tu vas te faire voir. Et donc il commence à être emmerdé. Et d'ailleurs, si on regarde les résultats économiques de la première diapo, on voit que déjà en 2011, j'ai pas souligné, voilà, regardez les chiffres de 2011, on voit déjà que ça commence à merder. Biodiesel, 2,1 millions de tonnes produits en 2011, c'est déjà moins 16% par rapport à 2010. Hein, là, il avait déjà des usines qui tournaient sur deux pattes.
Il est raffiné dans l'augmentation.
Oui, alors c'est un gars qui n'est pas con, hein, ce mec-là. Donc, plus 17% sur 0,7 million de tonnes, ça ne compense pas moins 16% sur 2,1 million de tonnes. Bon.
Il faut
qu'on
se cotise, quoi.
Ben oui, non, bientôt on va devoir. Ah, mais t'inquiète, de toute façon, c'est prévu. À mon avis, ces quatre, il y a une CVO qui va sortir, et puis hop, ça va. Bon, il y a un petit souci aussi, c'est que, comme vous avez vu la sous-graphique, donc vous voyez le prix des diesel, le prix des biodiesel certifiés machin, on est à peu près à 1200, enfin on est à peu près à ce niveau-là, on est un petit peu au-dessus de 1000 euros. Bon là on s'est stabilisé hein, pour ce moment. On est à peu près à 1000 euros. Une tonne de biodiesel, ça se vend à peu près 1000 euros. Le problème c'est que une tonne d'huile, on est à peu près à 1000 euros aussi. Donc il n'y a plus de marge. Il n'a plus de marge à faire ça. Donc c'est le début de la fin, quoi. C'est le début de la fin. On va en sortir. Ouf. Enfin bon. Il n'y a rien de gagné contre ce gars-là. Hein, parce que il est capable de. C'est dommage qu'il ne sert pas la cause de la Confédération paysanne. Parce que là, vraiment, avec une locomotive comme ça, on avancerait, ça serait formidable, quoi. Bon, donc petite conclusion. Donc, est-ce que Sophie Protéol c'est un exemple à suivre pour les autres filières agricoles? Donc, je vous ai démontré que le développement que cette filière a connu, c'est un développement qui a été permis grâce à la création d'un marché artificiel et captif, hein, sur laquelle la société Sophie Protéol est restée très longtemps en situation de monopole, sinon absolu, du moins très forte position dominante. Une surfacturation importante du produit fini aux utilisateurs, dont maintenant les agriculteurs avec le GNR7, hein, qui est sans contrepartie d'intérêt général. Moi, je pense qu'effectivement, les consommateurs, il y a certains trucs qui peuvent payer plus cher si à côté, il y a un service environnement, un service environnemental qui est rendu, mais là, c'est pas le cas. Un soutien fiscal, bon, qui reste existant, qui s'est quand même réduit et qui va sûrement disparaître, si M. Hérault tient ses promesses. Bon, aujourd'hui en plus, on a un contexte général où les agrocarburants sont quand même contestés dans l'opinion publique, hein, donc notamment même au niveau de la Commission européenne, hein, ils ont enfin compris que c'était une erreur. Donc là, ils viennent de proposer au niveau de la Commission européenne de passer d'un objectif européen de 7% à 5%. Donc 5%, Belin, il est déjà en surcapacité. Hein. Parce qu'en France, on est à 7%. Bon, au niveau de l'Europe, on n'est pas tout à fait à 7%. Donc déjà, au niveau du politique, ça commence à sentir un petit peu le souci. Bon, et puis, il y a quand même le problème de la pénurie alimentaire mondiale. Il y a quand même des problèmes de sécurité alimentaire mondiale. Ça inquiète les politiques. Hein. Un politique, ils n'aiment pas du tout que les gens, ils n'aient pas à manger. Hein. Du pain et des jeux, on disait à Rome, bon, ben, quand les gens, ils n'ont plus de pain, on voit ce que ça donne dans les pays du Maghreb et tout, et les politiques, ils n'aiment pas trop ça. Donc la pénurie alimentaire, bon, qui n'est pas due uniquement au fait que de la ponction exercée par les agrocarburants, mais ça contribue. Bon, il y a aussi, je vous l'ai dit, le changement des régimes alimentaires et puis changement climatique. Et puis, bon, enfin, donc, et puis enfin, facteur aggravant, donc là, il n'est plus en situation de monopole, donc de toute façon, on ne peut plus rien exiger. Enfin, il a du mal pour exiger ces trucs. Alors, c'est pas pour rien qu'il est arrivé président de la FNSEA. En 2011, il est arrivé président de la FNSEA. Bon, a priori, ça n'était pas sa tasse de thé. Il y avait quelqu'un d'autre qui était prévu, mais bon, il s'est dit, je commence à être un peu dans la merde. J'aurai plus de poids pour défendre ma filière oléagineuse en tant que président de la FNSEA que simplement président de Sophie Protéol. Donc voilà, maintenant il est arrivé là. Donc il faut qu'on fasse avec lui. Mais bon, voilà. Donc je vous remercie de votre écoute attentive. Hein. J'ai vu qu'il y avait personne qui avait...
Que dit-il de ton analyse?
Il n'en dit rien. Il fait comme si j'existais pas. De toute façon, maintenant, systématiquement, quand je suis invité quelque part pour intervenir et que normalement les organisateurs prévoient des opposants, soit des éthanoliers, soit des estrificateurs, les gens ne viennent pas. Non, ça donne, on ne vient pas.